Et bonjour tout le monde, bienvenue à CFM Radio. Nous nous retrouvons donc dans votre émission de cinéma favorite, Retour vers le cinéma. Et je suis présent aujourd'hui avec Lina.
Salut Vadim et personne.
Parce qu'Elodie n'est pas là.
Au programme aujourd'hui, la Minute Info, le quai que t'as vu et la petite chronique de Vadim qui porte sur...
Sur Jordan Peele, c'est un réalisateur.
Voilà, voilà. Donc sans plus tarder, la Minute Info. Cinéma cette semaine, Bugonia, une comédie de science-fiction de Yorgos Lanthimos, le fameux réalisateur de Pauvres Créatures, Kinds of Kindness, The Lobster ou encore The Favourite, bref, très connu, avec Emma Stone, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Jesse Pelmans et Alicia Silverstone. Ça raconte l'histoire de deux hommes complotistes qui kidnappent une PDG pensant qu'elle veut détruire la Terre, puisque, donc, selon eux, ce serait une extraterrestre. Ensuite, nous avons Vie privée, un drame policier de Rebecca Zlotowski, avec Jodie Foster, Daniel Auteuil et la plus belle Virginie Efira. Liliane Steiner, célèbre psychiatre qui apprend la mort d'une patiente à elle, ne pense pas au suicide, mais elle pense au meurtre. Suite à ça, elle va donc mener une petite enquête. Et pour finir, pour les grands et les petits, nous avons Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush. On y retrouve la petite lapine Judy Hopps et le renard Nick Wilde. Leur chef bocaux les oblige à suivre une thérapie de coéquipiers, mais il se rend compte que leur relation n'est pas si solide que ça. Pendant ce temps, un nouveau mystère survient quant à un serpent venimeux et notre duo, malgré les complications, tentera de tout faire pour sauver la ville. On peut donc retrouver ces films au CGR Le Paris et au CGR Multiplex à Aussonne de Montauban.
Eh bien, merci Lina et nous allons donc maintenant passer au quai que t'as vu.
Alors Vadim, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien cette semaine, du coup, j'ai vu Pris au piège, du nom anglais Costilling. C'est un film de Darren Aronofsky. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent le connaître. Donc c'est le réalisateur de Requiem for a Dream. Il a aussi fait Black Swan avec Natalie Portman et récemment The Whale.
Et puis.
Bien évidemment. C'est un thriller, donc une comédie noire qui va se passer dans le New York des années 1990. On va donc retrouver Hank Thompson, incarné par Austin Butler, qui était donc un ancien espoir du baseball, devenu barman. Et on va suivre un peu sa vie tranquille jusqu'à ce que donc son voisin punk, Russ, incarné par Matt Smith, va lui demander de garder son chat. Et là, bon, cette simple faveur, ça va l'entraîner malgré lui dans un monde de violence, de manipulation orchestrée. Ça va être un peu, on peut le dire, le bordel. Il y aura de la mafia russe, des juifs orthodoxes et autre petit problème. Ensuite, je tiens à le dire, il y a Zoé Gravitz qui joue dedans et elle joue très très bien. On va aussi y retrouver le chanteur Bad Bunny, ce qui est assez une approche en fait très intéressante. Aussi le fait que ça soit avec des réactions assez naturelles de la part du personnage principal. Donc j'aime beaucoup le scénario et de la manière où c'est présenté. On voit qu'il est un peu perdu et tout. C'est aussi avec des scènes d'action qui sont ma foi assez rapides, mais ça reste dans le réalisme. On va voir la confusion et la panique. En soi, c'est un film que je vous conseille. Je vous conseille d'aller le voir sur du streaming, bien évidemment.
Légal.
Bien évidemment. et donc, je vais donc maintenant laisser la voix à Lina.
Alors moi, cette semaine, j'ai vu La femme la plus riche du monde, justement au CGR Le Paris, de Montauban, réalisé par Thierry Cliffa. On a à l'affiche Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. Donc on a Isabelle qui incarne Marianne. Comme vous pouvez vous en douter, elle incarne la femme la plus riche du monde. Et donc le pouvoir dans cette société. Et Laurent Lafitte incarne le photographe qui lui incarne forcément quelque chose de plus vacant. Nos deux personnages vont évidemment tomber amoureuses, mais rien ne se passe comme prévu, évidemment, puisque c'est un film. Il y aura des problèmes de famille, des petits secrets, mais aussi des donations d'une somme astronomique qui interviennent et tout bascule. La justice interviendra et tout sera chaotique. Alors moi, ce film, je vais pas mentir, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est toujours le schéma un petit peu classique de « oui, l'argent ne fait pas le bonheur ». Bien évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est vu, revu, on l'a compris. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. C'est juste trop abordé dans le cinéma. Et je pense que quand on aborde un sujet trop abordé, justement, dans le cinéma, il faut que ce soit original. Or, dans ce film, ça ne l'était pas. C'était trop facile. C'était trop facile et ça aurait pu être mieux. En plus, cinématographiquement, je parle de l'image, bien sûr, parce que ma spécialité, c'est l'image. On pourrait mieux faire. On pourrait mieux faire parce que en termes de couleurs, il y a des couleurs qui ne vont pas avec la lumière extérieure. Ils ont décidé de mélanger les deux et ils l'ont mal fait. C'est des plans que j'ai pas aimés. Je ne vous recommande donc pas spécialement ce film, sauf si vous êtes passionné de petits films d'auteurs un petit peu origines.
Eh bien, merci Lina. En tout cas, là maintenant, on va bientôt passer à la chronique, mais avant, une petite coupure musicale. Broken in two, and I know you're onto me. That I only come home when I'm so all alone. But I do believe that not everything is gonna be the way you think it ought to be. It seems like every time I try to make it right, it all comes down on me. Please say honestly you won't give up on me. I shall believe. I shall believe. Open the door. Show me your face tonight. No one heals me like you, and you hold the key. Never again would I turn away from you. I'm so heavy tonight, but your love is alright, and I do. Not everything is gonna be the way you think it ought to be. It seems like every time I try to make it right, it all comes down on me. Please say honestly you won't give up on me. I shall believe. I shall believe. I shall believe. Et nous voilà de retour sur CFM Radio, sur votre émission de cinéma favorite, Retour vers le cinéma. Et maintenant, je vais vous parler du réalisateur Jordan Peele. C'est la chronique. Sa carrière va commencer dans la comédie aux alentours des années 2000. Il va devenir célèbre grâce à son duo Key & Peele. Vous pouvez peut-être les connaître avec les célèbres mèmes sur Internet.
C'est son frère ou pas ?
Pas du tout, parce que le mec est noir et l'autre est blanc.
Ah ouais, ils ont juste le même nom de famille.
Ben non, il y en a un qui s'appelle Key, comme une clé, et l'autre il s'appelle Peele. C'est Jordan.
Ah ok, mais je croyais que tu disais Key & Peele ou quelque chose comme ça.
Non, non.
Ok, c'est
Key, c'est
juste
et
okay,
c'est Peele.
Key and Peele. Ok, c'est vraiment
ouais,
oui, le nom
c'est
du duo.
Mon
c'est
accent
juste
anglais.
Que, ouais,
ouais. Non, mais ça me fait plaisir.
Non, mais ouais, non, c'est pas grave.
Allez, ça marche. Enfin bref, leur émission de sketch, elle est devenue culte aux États-Unis et cette obsession qui va alors le traverser dans le travail, hein, le fait de faire rire, ça est aussi le fait de placer les Noirs dans la société parce que, bien évidemment, il y a toujours eu pas mal de racisme aux États-Unis, même dans le monde. Et en 2017, il y a un changement radical qui arrive à passer derrière la caméra en tant que réalisateur. Personne n'était prêt pour ça en tant que premier long métrage. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est Get Out. C'est une comédie qui va, en fait, quand au final, repartir vers l'horreur. On a ce mélange donc de films d'horreur entre satire sociale et thriller, et le film va exploser au box-office, parce qu'il va même remporter l'Oscar du meilleur scénario original. C'est son tout premier film, je trouve ça assez ahurissant de sa part. Ce qui va rendre donc son cinéma unique, c'est qu'il ne cherche pas seulement à faire peur, parce que bien évidemment, je regarde des films d'horreur pour avoir peur, mais Peele va utiliser l'horreur pour refléter la société américaine. On va avoir le racisme, les inégalités, l'obsession pour le spectacle, mais aussi une peur de l'autre. Et en d'autres mots, l'horreur chez Peele, eh bien, c'est nous. Il est né en 1970 à New York, d'une mère blanche et d'un père noir qui est, comme d'habitude dans toutes les histoires, absent. Il grandit entre plusieurs identités culturelles et très tôt, il va s'intéresser au jeu de l'humour, mais surtout à la satire. Au début des années 2000, il intègre la troupe de comédie MADEV. C'est un équivalent américain des Inconnus, comme on peut avoir en France. Mais bon, ça reste avec Key & Peele et il explose en 2012. Les deux comédiens vont créer des sketchs souvent centrés sur les clichés raciaux, les absurdités de la société américaine et les petits travers du quotidien. Mais alors comment on va passer de la comédie à l'horreur ? Eh bien pour Peele, ce n'est pas une rupture, mais plutôt une continuité logique. Car oui, l'humour et l'horreur fonctionnent de la même manière. Ils reposent sur le timing, sur la surprise, mais aussi sur le malaise. Un bon gag et un bon screamer au cinéma sont les mêmes règles, créer une attente puis la briser. Mais surtout, Peele comprend que le rire et la peur sont deux moyens différents de parler de même chose. On va avoir nos obsessions, nos préjugés et nos angoisses profondes. Donc oui, on l'a vu, Jordan Peele ne quitte pas vraiment l'humour pour l'horreur, il change simplement d'outil pour passer du rire à la peur, mais en continuant d'explorer les mêmes obsessions. Ce qui allait vraiment bouleverser en fin de compte sa carrière, car son tout premier long métrage, donc Get Out, est là. Le comédien de sketch devient du jour au lendemain un cinéaste incontournable. Chaque nouveau film de Peele devient un événement et ce n'est pas un hasard. Chacun de ses projets raconte une Amérique différente, mais toujours terrifiante. Maintenant, nous allons nous plonger dans ses œuvres majeures. Est-ce que tu en connais ?
Je connais que Get Out, mais je ne l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu, je te le conseille, c'est pas mal.
Je sais, il est dans ma liste, ça fait 2 ans, je crois qu'il est dans ma liste.
Waouh ! Letterboxd censure.
Oui.
3 films donc, 3 visions et surtout 3 étapes dans l'évolution d'un réalisateur qui a fait de la peur un peu son langage. En 2017 sort alors Get Out, son premier film, et à ce moment-là, comme je l'ai dit, personne ne s'attend à ce petit projet d'horreur indépendant, parce que oui, ça reste quand même du cinéma indépendant, et que ça devienne en fin de compte un phénomène mondial. Et pourtant, le pitch est simple, Chris, un jeune homme noir, part passer un week-end chez les parents de sa petite amie blanche. Tout semble idyllique au début. Trop même, jusqu'à ce que Chris découvre que cette famille cache un secret monstrueux. Je ne vais pas tout vous raconter, mais un petit conseil, il faut le voir. Une des scènes les plus cultes, c'est la scène du Second Place, là où Chris est hypnotisé par sa belle-mère et il s'enfonce dans un gouffre noir où il est incapable de bouger ni de parler. Ce lieu, un peu englouti, c'est une métaphore puissante de l'oppression, être spectateur de sa propre vie sans pouvoir agir. Peele lui-même dit que c'est une image que vont vivre beaucoup de minorités piégées dans une certaine société où elles ne contrôlent pas leur destin. Et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet, cette scène, parce qu'elle est assez connue, c'est même l'affiche du film. Côté production, l'histoire est dingue. Le film a coûté seulement 4,5 millions de dollars. Et je peux vous dire que c'est pas beaucoup pour un film, même si c'est un film quand même américain. Et il est produit par Blumhouse. C'est un studio qui est spécialisé dans les films à petit budget, mais surtout les films d'horreur. Personne n'y croyait vraiment. Et pourtant, ça a rapporté 250 millions de dollars dans le monde. Donc niveau qualité-prix, on est absolument hallucinant. Surtout, Get Out a marqué un tournant pour la première fois depuis longtemps parce que c'est une des rares fois donc, où le film d'horreur était reconnu par des institutions. Jordan Peele a reçu un Oscar, donc l'Oscar du meilleur scénario original. Une première pour un cinéma noir dans cette catégorie.
Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience.
C'est Get Out, montrer la peur de l'autre. Us, sorti en 2019, va explorer la peur de soi-même. L'histoire va suivre donc une famille en vacances, une mère, un père et leur enfant. Tout semble normal, paisible, jusqu'au moment où ils se retrouvent face à eux-mêmes. Littéralement. C'est leur double exact, les, comme ils aiment bien l'appeler, Death Red. C'est très bizarre comme nom. Et le film, il est bien plus symbolique que Get Out, parce que là, il va s'inspirer de légendes urbaines, de mythes, de doubles maléfiques, mais ça reste aussi un univers assez américain, l'ombre d'une société très inégalitaire, cachée sous le vernis de la normalité. Et l'un des points forts du film, c'est Lupita Nyong'o. Alors, elle joue à la fois la mère et son double terrifiant, Red. La scène où elle hurle et guide ses doubles avec sa voix étranglée devenue iconique, Peele, il insiste énormément sur le son et le rythme, la musique, elle est iconique. J'aime beaucoup cette musique. Et les silences, les bruits, les voix déformées, tout est pensé pour plonger le spectateur dans un malaise constant. Et côté production, Peele, il se ménage un peu moins. On est vers du 20 millions de dollars, plus ambitieux que Get Out, mais le résultat est à la hauteur. Us va rapporter plus de 250 milliards au box-office et va confirmer Peele comme un cinéaste capable de mêler horreur, symbolisme et critique sociale profonde.
Ouais, mais du coup, oui, ça parle de la critique sociale, mais ça aborde aussi, comme j'ai pu le dire un petit peu, de la philosophie quand même, parce que beaucoup de films d'horreur abordent justement la philosophie sans qu'on s'en rende forcément compte, ouais.
Je pense, surtout, c'est quelque chose qui est visé pour les gens qui vont le voir et qui vont pouvoir interpréter le film à une manière différente que ce qu'un spectateur pouvait voir. Quand t'es un spectateur normal, lambda, tu vas voir le film, tu vas profiter et tu regardes sans forcément te poser des questions derrière. Et je pense que les réalisateurs comme Jordan Peele, ils font ça pour montrer que leur travail est beaucoup plus recherché que ce qu'il en a l'air.
Je vois. Moi, je trouve que de nos jours, je veux pas faire l'ancienne, mais je trouve que de nos jours, le cinéma sombre comme le cinéma de Tim Burton ou encore d'autres films d'horreur, donc un peu plus d'horreur, se perd. Je trouve qu'en 2025, les films d'horreur, c'est juste des films d'horreur, gore. Soit il y a des trucs pour surprendre, soit il y a des trucs dégueulasses. Et il n'y a pas de réel enjeu derrière, si ce n'est que des petits trucs. J'ai vu Smile 2 l'année dernière pour Halloween, j'y ai pensé, en fait, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que le destin te rattrape, quoi. Enfin, il n'y a pas de profondeur, vraiment, de grosse profondeur derrière, alors que là, de ce que tu me dis, Jordan Peele s'y prête un peu plus, et ça fait un peu plus écho à ce que le cinéma faisait avant.
De toute manière, le cinéma, il cesse d'évoluer, tu le sais. Et bon, même les films d'horreur, c'est la base. Ça fait quoi? Ça existe depuis que le cinéma existe, donc ça fait 130 ans que ça existe. Les films d'horreur, on peut prendre l'exemple de ça. Ça, c'est un film d'horreur qui montre un peu de la violence, du gore et tout. Et c'est pas les films d'horreur qu'on a l'habitude de voir souvent maintenant. Tu m'as pris Smile comme exemple, je trouve que c'est un mauvais exemple parce que c'est pas forcément un très bon film.
C'est un très mauvais film,
on est bien d'accord. Mais je peux te prendre des exemples comme on peut avoir les films donc, qui sont produits par A24 qui essayent de se démarquer un peu, d'apporter une esthétique très philosophique. Je suis désolé de le dire si ça t'irrite un peu.
Non, c'est vrai. Non, mais quand je te dis vraiment, c'est vraiment les petits films où tu vois que le but c'est juste de faire peur pour faire peur.
Donne-moi un petit exemple.
Vraiment les films de merde comme Smile. Et il y en a beaucoup, des films d'horreur comme ça, des petits films de merde qui ont beaucoup de succès pour pas grand-chose. Et bon, là, c'est peut-être mon esprit philo qui ressort.
Vas-y.
Mais peut-être qu'aussi, le spectateur pourra avoir peur psychologiquement. Psychologiquement, regarde, je te prends l'exemple du cinéma expressionniste allemand dans les années 20-30.
J'adore.
Moi aussi, j'adore. Ce qui fait peur en soi, bon, même si l'atmosphère est très très sombre, ce qui fait peur, c'est ce qu'il y a derrière. L'inconscient de Freud. En fait, et si on était Nosferatu? Et si on était un de ces méchants dans le cinéma expressionniste?
J'ai un peu de mal à voir, mais je vois sans voir.
Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué à aborder. J'avoue que j'ai du mal à l'expliquer aussi.
Aussi bien soit-il que Jordan Peele, ça reste quand même un maître. Il a sa maîtrise du rythme, de l'atmosphère, la narration, et ça fait de lui l'une des voix les plus originales et influentes du cinéma contemporain, selon moi.
Eh bien, merci Vadim pour cette chronique. Elle était très intéressante, justement. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu emballé, je crois, surtout moi, sur la fin, sur l'expressionnisme. C'était très intéressant.
Bah écoute,
j'espère que ça a plu aux auditeurs.
J'espère aussi.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous!